Dernière demi-heure de cette émission, Pénélope Mekwa est ici en compagnie de Dalila Awada. Bonjour Dalila.
Bonjour.
Que vous pouvez lire dans le journal Métro, bien entendu, et qui est candidate à la maîtrise en sociologie. Et c'est d'ailleurs à travers ce regard de sociologue en devenir que Dalila, vous avez donc épluché les magazines ces dernières semaines. Et on commence donc avec cet article tiré du nouveau projet 16 par Alexandre Larchevêque, 5 avenues pour un dialogue constructif. Et on dirait qu'on peut jamais se faire dire ou se donner les clés pour un dialogue constructif parce que c'est pas simple tout ça.
Mm-hmm.
À l'ère des réseaux sociaux.
En effet, puis c'est ce qu'il nous dit, c'est que cette omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies a mis en lumière certaines lacunes en termes de communication. Puis c'est comme si les bases du dialogue ont été fragilisées parce que l'exercice du dialogue à la base est pas facile, l'auteur le rappelle, parce que chaque personne a ses propres habitudes, chaque personne a son propre bagage culturel, affectif, et donc les discussions peuvent des fois tourner au vinaigre. Et l'autre affaire, c'est que ça n'a pas toujours lieu dans un espace qui est neutre, mm-hmm. et donc ça favorise pas toujours les bonnes discussions. Et donc lui propose 5 petites clés pour réapprendre le dialogue constructif. Donc la première clé qu'il nous propose...
On prend des notes tout le monde.
C'est l'apprentissage de la communication dès l'école. Puis pour étayer cette idée, il s'appuie sur la philosophie dialogique de l'éducation de Normand Cornette.
Vous allez nous expliquer c'est quoi?
Absolument. Il s'agit de remettre la discussion au cœur du système pédagogique. Puis le professeur Cornette, qui enseignait à l'université McGill, il faisait ça dans ses cours. Donc, il invitait des personnes des milieux politiques ou artistiques et il leur demandait d'échanger avec les étudiants d'égal à égal. Et donc, l'échange se fait sur des bases plus réciproques. Et d'ailleurs, le professeur Cornette appliquait lui-même cette méthode-là. Donc, il échangeait avec ses élèves, mais en se mettant dans une posture d'apprenant et en étant à l'écoute de ce que les élèves ont aussi à transmettre. Donc, pour favoriser ça, évidemment, il faut que les dynamiques soient revues dans le système scolaire. Donc, moins de concurrence, moins de stress, moins de solitude, etc., etc.
Alors ça, c'est la première clé?
Oui. La deuxième clé, c'est de prendre le temps de clarifier le sens des mots et le but de l'échange. Parce que ça va pas de soi. Même si on parle la même langue et on utilise les mêmes termes, il y a certains concepts, certains mots qui ont pas la même définition pour une personne ou une autre, comme les mots justice, liberté d'expression, amour, et j'ajouterais même laïcité.
Absolument,
au
c'est
Québec.
Le premier mot qui vient en tête lorsqu'on a l'impression qu'on ne parle pas tous de la même chose sur les mêmes bases.
Exactement, puis des malentendus peuvent être évités quand on prend quelques petites minutes pour clarifier au préalable le sens des mots un peu polysémiques qu'on utilise. L'autre point qu'il soulevait, c'était de déterminer un but avant d'entamer le dialogue. Qu'est-ce qu'on tente de faire ressortir de cette discussion au juste? Puis ça, c'est particulièrement utile dans les discussions qui ont une forte charge émotive, comme dans un couple ou entre amis.
Et il y a aussi une autre clé, et je trouve ça très brillant, c'est faire la distinction entre l'humour, qui est aidant dans une conversation, et l'humiliation.
Exactement.
Et il y a des gens qui font pas toujours la différence entre les deux.
Ouais, lui, ce qu'il propose, c'est de se demander, en faisant cette blague, suis-je en train de dédramatiser ou de déprécier? Parce qu'on l'a vu comment ça peut créer des polémiques, puis comment ça peut blesser une simple blague qui est faite, par exemple, dans un show d'humour, prend plutôt des allures d'humiliation.
Mm-hmm.
La quatrième clé, c'est d'afficher son identité. Ça, encore une fois, ça résonne beaucoup avec les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment par l'entremise d'un surnom ou d'un avatar. Et ça désinhibe complètement les comportements. Mm-hmm. Impolitesse, manque de civisme, insultes, menaces, etc. Donc ça, c'est tout simple. On affiche notre vrai nom et ça met un filtre. On va mieux penser à ce qu'on avant d'écrire.
Et ça va aussi être reçu différemment. Si c'est reçu d'une personne qui se nomme, il y a comme une certaine crédibilité aussi. Et nous-mêmes, l'escalade, on se la permet moins quand on voit à qui on s'adresse par le biais d'un avatar qui est en fait qui serait son vrai visage ou le vrai nom de la personne. Et la cinquième clé?
Se connaître. Donc, connaître nos vulnérabilités personnelles, connaître nos failles, nos faiblesses, parce que ça favorise l'empathie à l'égard de notre interlocuteur qui, lui aussi, a ses propres vulnérabilités. Bien sûr, c'est pas toujours facile parce que pour s'ouvrir de cette façon puis afficher nos vulnérabilités, il faut qu'on sente qu'on est dans un contexte qui est sécuritaire. C'est pas toujours le cas. Alors, ce que l'auteur propose, c'est que si on sent que c'est trop épineux et que ça sera pas possible de passer notre message sereinement, on peut trouver une forme de médiation, comme à travers l'art, par exemple. Donc, exprimer ce qu'on veut exprimer en passant par un autre moyen que le dialogue face à face. Mm-hmm. Donc ça, c'est toutes des petites clés faciles à appliquer et qui ne peuvent que faire du bien.
Si vous avez envie d'une lecture plus consistante sur le sujet du dialogue, il y a Rachida Azdoud, on vous le rappelle, qui a publié il y a quelques semaines un livre intitulé « Pas de chicane dans ma cabane » ou « L'art de converser » justement, ou « L'art de débattre ». Mais si vous voulez quelque chose, donc des clés qui ont été ramassées dans un article, c'est dans le nouveau projet 16, 5 avenues pour un dialogue constructif.